Bonjour et bienvenue à Persistance coloniale, le balado du groupe d'études sur le colonialisme québécois. Comme toutes les colonies d'occupation, le Québec a été à la fois une colonie et une puissance colonisatrice. Dans ce balado, nous explorons des questions théoriques, nous nous penchons sur des problématiques historiques et sur des enjeux contemporains, afin de mieux comprendre la persistance et les mutations du colonialisme dans la société québécoise, tout en la situant par rapport aux autres espaces coloniaux. Nous nous intéressons aussi au chemin balisé par des chercheuses, chercheurs et activistes pour déstructurer les logiques du colonialisme. Ici Catherine Larochelle du balado Persistance coloniale. Aujourd'hui, je reçois Adèle Clapperton-Richard, doctorante en géographie à l'Université de Laval, et Benoît Gaudreau, étudiant la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Tous les deux ont rédigé un mémoire de maîtrise portant sur les manuels scolaires. Le mémoire d'Adèle s'intitule « Reconnu, altérisé, occulté, l'agentivité des figures historiques dans les manuels québécois d'histoire nationale 1954-1980 ». Le mémoire de Benoît, « Les représentations des premiers peuples et le colonialisme d'occupation dans les manuels scolaires d'histoire 1920-1960 ». Je les ai réunis aujourd'hui pour discuter manuels scolaires et colonialisme. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour Adèle.
Bonjour.
Je suis très heureuse de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous de ce sujet toujours actuel. Hein. C'est souvent dans les actualités, c'est souvent dans les nouvelles, cette question de qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants et quelle représentation se retrouve dans les manuels scolaires, dans les exercices. Ça le fait les manchettes cet hiver avec des exercices racistes envers les Noirs dans une école à Brossard, si je ne me trompe pas. À l'automne dernier, on a parlé de comment l'histoire des pensionnats était enseignée dans les écoles et dans le nouveau programme québécois. Et vous êtes tous les deux spécialistes des manuels scolaires québécois et de l'enseignement de l'histoire. Donc là, on a voulu vous réunir avec moi qui a aussi traité un peu de ce sujet dans ma thèse qui est devenue un livre pour qu'on voit ensemble un peu c'est quoi cette histoire-là de la représentation des Premières Nations et du colonialisme dans les manuels québécois. Finalement, est-ce qu'il y a eu une évolution entre la période que moi j'ai regardée, qui commence en 1830, jusqu'à celle que toi, Adèle, tu as fouillée, je pense, qui se termine dans les années 1980.
Oui, exactement.
Je lancerai peut-être une première question à Benoît. Tu es entre nous deux, donc tu as fait une recherche qui porte sur les années 20 aux années 60, une période importante aussi dans l'histoire de l'éducation au Québec. Et peut-être présenter brièvement quel manuel scolaire tu as étudié, puis quelle conclusion générale, si tu es capable de les dresser de façon succincte, là, tu ferais de cette recherche-là.
Bien, mes manuels que j'ai sélectionnés pour mes propres recherches commencent dans les années 20, mais à partir des années 1950, il y a une série qui va apparaître des Frères des écoles chrétiennes, Frères de l'instruction chrétienne et des Clercs de Saint-Viateur, dont Adèle, justement, a traité d'un de ceux-là, si je me souviens bien, dans son mémoire. Et ces derniers sont vraiment intéressants parce que sont plus coloniales que jamais. C'est des manuels derrière un vernis d'ouverture, derrière une volonté de peut-être mieux représenter les premiers peuples, sont plus dénigrants que jamais. Donc oui, c'est cette période-là pour moi qui est une période d'après-guerre où on voit une décolonisation du monde, où on voit une tentative d'ouverture, mais pourtant au Québec, les manuels sont plus coloniales que jamais. Puis peut-être qu'on va revenir plus loin là-dessus, mais c'est carrément une publicité coloniale. Donc, pour promouvoir la colonisation du territoire, pour promouvoir l'exploration, puis le défrichage des forêts, de nouvelles zones. Puis on est vraiment dans une espèce d'entre-deux. Donc, un monde où on se décolonise d'un côté après la guerre, mais au Québec, au contraire, on fait la promotion plus que jamais de cette dépossession-là.
C'est intéressant ça, parce que toi, Adèle, tu as regardé les manuels d'histoire du secondaire. de la période qui suit, tout juste, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement qui s'opère? Parce que là, en fait, il y a une laïcisation des manuels aussi. Qu'est-ce que la Révolution tranquille, finalement, fait?
Je me suis penchée sur 32 manuels d'histoire nationale, donc du Québec et du Canada, parus. Moi, mes années, c'était entre 1954 et 1982. Puis ça venait cerner comme une période où il y a eu des réformes de l'éducation, entre autres la laïcisation, justement, de l'éducation en 66.
Mm-hmm.
Et moi, j'avais comme cerné qu'il y avait comme deux principaux discours transmis à travers ces manuels-là. Mettons les manuels des années 50 jusqu'à 66, qui étaient très religieux, donc, tu sais, qui étaient écrits justement par des frères des écoles chrétiennes, de l'instruction chrétienne, les clercs de Saint-Viateur aussi, faisaient la promotion d'une histoire-récit que j'avais dit romantique.
Mm-hmm.
Parce que c'est un discours qui est prescriptif aussi, en fait, là, tu sais, qui, par exemple, dans le cas des femmes, en tout cas, on pourrait revenir, là, mais qui donne des modèles de genre précis, stéréotypé aussi, puis qui est, comme Benoît a dit, extrêmement colonial, qui fait l'apologie de la colonisation. Après la laïcisation de l'éducation, dans les manuels que j'ai analysés entre 1967 et 1982, moi, je voyais un discours qui était devenu plus de l'histoire-récit scientifique,
mm-hmm.
qui est un discours un peu plus descriptif, parce que là, tout d'un coup, on cherche à être neutre, entre guillemets, ou objectif. On n'est plus dans... les louanges de la mère canadienne-française ou, tu sais, comme les livres religieux faisaient. Mais ces deux discours-là, leurs fondements demeuraient les mêmes, c'est-à-dire basés sur l'androcentrisme, la blanchité, puis le colonialisme, évidemment, qui est la trame persistante de cette histoire-là.
Si on refait la généalogie de comment on présente aux enfants, aux élèves canadiens-français qui deviennent les élèves québécois, les personnes autochtones dans les manuels d'histoire. Ça commence en 1830 jusqu'en 1915. Ce que j'ai remarqué, puis là, après, je veux savoir si c'est un peu si ça continue à être la même chose dans les manuels que vous avez étudiés. Dans les manuels d'histoire, on incluait donc toujours une espèce de chapitre ou une section sur l'ethnographie, donc de ce qu'on appelait les Indiens, grosso modo, le début du manuel. Des fois, c'était au tout début. Des fois, c'était entre Christophe Colomb et Jacques Cartier. Des fois, c'était entre Cartier et Champlain. Mais c'était comme une section à part qui était anhistorique. Et là, c'était vraiment de l'ethnographie, là, bien 19e siècle, avec description du corps, description des mœurs, des coutumes, etc. C'était donc quelque chose qui déjà plaçait les populations autochtones en dehors de l'histoire. C'est quelque chose que je remarque aujourd'hui encore dans le cursus scolaire du primaire. Donc, mes enfants sont au primaire. Mais je voulais voir un peu, vous, comment vous l'avez vu. Benoît, tu as fait des manuels surtout du primaire, justement, des années 20 aux années 60. Adèle, tu as fait plutôt secondaire des années 50 aux années 80. Donc, dans votre cas, comment étaient introduits, disons, ces populations-là dans le cours d'histoire?
Dans mon cas, ces sections ethnographiques-là étaient vraiment au début, comme tu as dit dans ton récit, mais étaient étendues plus sur des années. Donc, les manuels de première, deuxième année surtout, qui dans le programme justement des années 50, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va voir un changement. Donc, plutôt que d'être un encadré qu'on fait au début de l'année, peut-être comme dans les manuels du secondaire, un rappel, maintenant, ça fait partie du programme complet. Donc, sur toute l'année, ça va être aussi avec des activités. Donc, les jeunes vont se déguiser en Indien, entre guillemets. Ils vont participer, même j'ai vu des fois des suggestions de faire organiser un powwow ou de refaire des scènes de la vie quotidienne des Indiens, entre guillemets. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ces récits-là cadrent dans des espèces de récits imaginaires.
Puis toi, Adèle, est-ce que tu as remarqué à quel moment de quelle façon et à quel moment on introduisait les populations autochtones aux élèves?
Ça ressemble beaucoup à, je pense, à ce que tu as observé, Catherine, dans tes manuels aussi. Donc, ça s'est comme poursuivi après, dans le 20e siècle encore, là, en introduction, souvent, on va présenter pas nécessairement un chapitre, mais des fois, ça va être un chapitre ou une première section comme avant la colonisation, où là, on parle des premiers peuples de façon très ethnographique aussi, puis très dans la description de leurs mœurs, coutumes, habillements, etc. Donc, c'est très anthropologique, anthropologie euromoderne, coloniale, donc. Puis, ils vont continuer d'être là dans la période de la colonisation, bien sûr, de façon ben, très stéréotypée, où on oublie complètement la diversité de toutes les nations sur le territoire ici. Puis, on ne parle que des Hurons et des Iroquois. Puis, il y a une dichotomie vraiment Hurons-Iroquois. Les gentils Hurons, les méchants Iroquois, qu'on stéréotypise de façon à soit avantager le récit colonial national. C'est les gentils Hurons aider les Français à s'établir, donc. Puis ça légitimise l'installation sur le territoire, puis le colonialisme d'accaparement, de peuplement. Puis ils vont disparaître dans le récit du moment où il y a eu la conquête britannique.
Ouais, mais c'est ça. Donc,
Puis, ouais, c'est ça.
donc sur 150 ans, c'est on est resté avec
C'est ça, ce
la même
récit-là n'a
chose.
pas changé. Puis, tu sais, quand j'ai eu terminé de lire mon corpus, tu sais, qui finissait dans les années 80, tu sais, je me disais, ah, je vais aller voir les manuels aujourd'hui, par exemple. Tu sais, on en est où? Puis, j'avais lu un manuel qui était paru en 2018, puis donc qui donne suite à la commission Vérité et Réconciliation,
Ouais.
dans lequel il y a des appels à l'action qui concernent l'enseignement de l'histoire. Entre autres, qui était d'enseigner l'histoire des pensionnats. Puis dans ce manuel-là, il en parlait, tu sais, un peu de l'histoire des pensionnats, mais un peu plus en aparté encore, dans des encadrés, puis pas vraiment dans le récit principal, tu sais. Fait qu'on est encore dans ce paradigme-là du récit qui. Non, le récit principal ne change pas, bref.
Non, c'est ça. Puis c'est un récit qui est fait pour légitimer la présence des Euros québécois, des Euros canadiens et des Européens, point, là, au début. Mais ces légitimations-là du colonialisme à travers les manuels, ils se déploient vraiment de plein de façons. Peut-être, Benoît, tu peux nous dire comment toi, tu l'as vu se déployer dans les manuels du primaire?
Bien, peut-être, moi, ce qui est intéressant, c'est beaucoup la mission civilisatrice. J'en ai énormément discuté avec Catherine. Puis, pour revenir un peu à ce que vous avez dit plus tôt sur la disparition après la conquête, eh bien, dans les manuels des années 50, on a quelque chose de différent pour les manuels du primaire. Parce que les premiers peuples ne disparaissent pas après la conquête pour les manuels de première et deuxième année particulièrement. À partir de la troisième année, là, on les voit commencer à disparaître encore à travers le même trope, donc la conquête et les Anglais arrivent et les Autochtones disparaissent. Mais pour les manuels de première et deuxième année, ils sont dans le présent. Sauf que cette fois-ci, c'est ce qu'on va dire, c'est que sur les anciens territoires, donc les territoires qui ont été colonisés déjà, eh bien, les premiers peuples sont rendus comme nous. Donc, les manuels des trois congrégations vont mettre un accent là-dessus pour dire que maintenant, ils vivent dans des villages comme nous, ils vont à l'église comme nous. Donc, on fait même un des manuels, en particulier celui des Frères de l'Instruction chrétienne, va même mettre l'accent sur la blanchité de la peau. Donc, ils sont blancs comme nous. Mais donc, ceux qui étaient sur le territoire colonisé sont comme nous, mais il reste encore des Autochtones à coloniser, donc des territoires à coloniser au nord. Donc, à la fin, des manuels sont toujours présents dans le présent des années 50, mais sont encore sujets à la colonisation, mais cette fois-ci par les missionnaires. Donc, les missionnaires se rendent dans le Grand Nord et on les présente encore selon les mêmes stéréotypes qu'on présentait les Autochtones de la Nouvelle-France. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le colonialisme se maintient dans le présent à travers le même discours de la mission civilisatrice. Donc, dans les années 50, la mission civilisatrice, qui était auparavant un accompagnement dans la disparition, donc on peut voir ça dans les manuels que Catherine a analysés au 19e siècle et même ceux qu'elle a analysés pour les années 20 et 30. Donc, on les aidait, mais c'était comme une aide pour qu'éventuellement ils disparaissent. Mais maintenant, c'est dans le présent. Donc, le colonialisme se révèle au présent. Ce qui est vraiment intéressant parce que si avant, c'était quelque chose qu'il fallait cacher, Bien, peut-être de manière inconsciente, les auteurs des manuels des années 50 vont le prolonger dans le présent. Cette mission civilisatrice-là va maintenant faire partie du présent colonial québécois.
Puis Adèle, c'est les questions d'agentivité qui t'ont beaucoup intéressée, l'agentivité des différentes figures historiques, donc pas seulement celles attribuées donc, aux individus autochtones, aux personnages autochtones, mais comment l'agentivité des personnages historiques montre finalement que cet enseignement-là vise à justifier le colonialisme.
Une chose qui est apparue évidente, c'est que bien sûr, toutes les figures historiques qui sont des hommes blancs ont toujours une agentivité octroyée dans les récits. En fait, non seulement les hommes blancs font partie de l'histoire, mais c'est vraiment eux qui font l'histoire selon la trame narrative enseignée. Moi, j'avais comme nommé ça l'agentivité masculine blanche là, avec des majuscules parce mm-hmm. que ça devient une norme historique puis mm-hmm. un modèle discursif aussi à partir desquels toutes les actions des récits se construisent. Puis cette agentivité masculine blanche-là, ben, elle existe parce qu'elle s'oppose à une agentivité altérisée ou occultée. Puis ça, c'est l'agentivité des figures autochtones en principalement, mm-hmm. là, des figures des Premières Nations. Puis ça, c'est à toute époque, tous les manuels, que ce soit les manuels des années 50, 60 ou 80, vont construire des figures autochtones altérisées quand ils en parlent, ou juste les invisibiliser. Donc ça remet en valeur aussi les actions et l'histoire des figures blanches. Mais dans les manuels des années 50, où la réalité missionnaire est très présente, ça permet de valoriser, par exemple, les rôles féminins, donc des religieuses, qui vont participer à la colonisation, par exemple, de l'Ouest canadien. Puis là, il y a un passage, je crois que c'est dans un livre des Frères des écoles chrétiennes, où on explique que là, je ne sais plus quel archevêque qui est venu demander aux Sœurs Grises de se porter volontaire pour aller dans mm-hmm. l'Ouest canadien.
Ouais.
Et là, on dit... Il leur a demandé qui veut se porter volontaire. Toutes se levèrent enthousiastes, prêtes à partir, accomplir cette mission grandiose, t'sais. Fait que là, ces femmes-là, on leur octroie une agentivité parce qu'elles vont aller accomplir une mission importante. Elles sont mises en valeur,
mm-hmm.
Mais cette mise en valeur-là repose sur un acte de colonisation, mm-hmm. d'aller participer au colonialisme dans l'Ouest canadien. Il me semble ça, Catherine, c'est quelque chose que tu avais abordé un peu
ouais.
dans ta thèse aussi. Ça m'avait frappée parce que je retrouvais ça aussi dans les manuels ouais. que je lisais. Mettons, une mise en valeur de l'agentivité d'une femme blanche allait reposer sur l'altérisation d'une figure autochtone.
Oui. Bien, en fait, je pense que ma formule, c'était « sans autochtones, point de héros ouais. ». C'est-à-dire que si on enlevait du récit les figurants autochtones, parce qu'ils sont, du moins au 19e siècle, ils sont à peu près jamais individualisés ou ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de nom. Mais si on les enlève du récit, il n'y a plus de récit, c'est-à-dire il n'y a plus de héros. Et donc, c'est intéressant de voir... Donc, si on les enlève du récit aussi, il n'y a plus de femmes. Donc, ça, c'est intéressant de voir, Adèle, comment tu vois les femmes disparaître. Donc, quand on enlève, le vernis religieux du récit... Il n'y a plus de femmes, mais les hommes restent. Donc, dans le fond, on a été capable de redéfinir la rhétorique coloniale qui fait exister ces héros masculins. Mais en enlevant la religion, il n'y avait plus... Ou en tout cas, on en a profité peut-être pour finalement scraper les figures féminines. Mais oui, c'est ça. C'est que, en fait, puis je me demande, c'est peut-être plus le cas de façon aussi drastique aujourd'hui, mais si on enlève... Donc, les figurations autochtones, le récit ne tient plus. Il n'y a plus de sens, en fait. Il y a carrément plus de sens. Donc, on voit comment de 1850 à 1980, les auteurs des manuels, donc, qui sont partie prenante de la société québécoise, qui font partie souvent de, on pourrait dire, l'intelligentsia québécoise, ont réussi à trouver de nouvelles façons en fait, d'utiliser le colonialisme pour avoir un récit, pour qu'on ait quelque chose à raconter aux enfants. Discussion sur les manuels scolaires et le colonialisme québécois avec Adèle Clapperton-Richard et Benoît Gaudreau.